BFM Business, l'info éco.
C'est la troisième heure de BFM Bourse qui s'ouvre dans un instant. Auparavant, un peu plus de 17h, Marjorie Adelson nous accompagne pour parcourir l'ensemble de l'actualité. Rebonsoir Marjorie.
Rebonsoir Guillaume et rebonsoir à tous. Avant de quitter son poste, le patron de la SNCF règle ses comptes avec Bercy. Ce matin, le gouvernement l'a dit, Jean-Pierre Farandou ne sera pas reconduit à la tête du groupe. Il sera là jusqu'au JO et pas plus. Lors de son audition cet après-midi au Sénat, il a fermement défendu l'accord conclu avec les syndicats sur la fin de carrière. Accord à 35 millions d'euros. Souvenez-vous, qui lui a valu d'être convoqué la semaine dernière par Bruno Le Maire. Mais Jean-Pierre Farandou l'affirme, c'est un accord équilibré et qui ne coûtera rien aux contribuables. Écoutez.
C'est un bon accord qui ne contourne pas la loi sur les retraites, qui est dans les pratiques des grandes entreprises publiques et privées. Son coût est raisonnable, avec de vrais bénéfices pour l'entreprise. Il ne coûtera rien, ni aux contribuables, ni aux clients, ni aux caisses de retraite. Il existait depuis 2008 et sa renégociation a été initiée à la demande des pouvoirs publics et conduite en responsabilité et en transparence. Je m'engage devant vous à compenser le coût sans le répercuter bien sûr sur le prix des billets et à préserver les marges de l'entreprise.
Nouvelle session en vue chez Atos. Selon une information des Échos, l'ex-fleuron de l'informatique serait sur le point de vendre une filiale très sensible. Il s'agit de Worldgrid qui conçoit notamment les systèmes de pilotage des centrales nucléaires d'EDF. La filiale fournit des logiciels de pilotage et de supervision de plusieurs tranches nucléaires aussi en Russie, en Chine et au Royaume-Uni, ce qui représenterait 15% du parc mondial. Le sujet a été mis à l'agenda du conseil d'administration du groupe qui se tient aujourd'hui. Direction les États-Unis où Apple tient en ce moment sa conférence sur les iPads. Le groupe a présenté sa sixième génération d'iPad Air, une tablette qui se distingue par un large écran de 13 pouces, une première pour la gamme. Parmi les nouveautés également, une nouvelle puce, la M4, bien plus rapide que la précédente. Dans l'actualité également, Disney voit son bénéfice reculer. Au deuxième trimestre de son exercice décalé, il tombe à 216 millions de dollars contre 1,7 milliard l'an dernier à la même période, en cause des dépréciations d'actifs liées à la fusion de sa filiale indienne avec son concurrent. À noter cependant que le chiffre d'affaires est en hausse de 1% à 22 milliards de dollars et que pour la première fois, le streaming est rentable. On termine avec ce nombre record d'investissements attendu au sommet Choose France. L'année dernière, 28 projets avaient été annoncés pour 13 milliards d'euros. Des annonces devront intervenir notamment dans des secteurs stratégiques comme l'intelligence artificielle ou la santé. Le 7e sommet se tient à Versailles ce lundi et BFM Business sera sur place. Pour rappel, pour la 5e année consécutive, la France est le pays le plus attractif d'Europe. 60 patrons français seront présents.
BFM Business, vos placements, nos conseils, BFM Bourse, avec Guillaume Sommerer.
Ah, la flamme olympique arrive demain à Marseille. Mais nous, on est l'émission qui garde la flamme. Chaque jour, le feu sacré de la bourse, les pulsations du monde sont dans BFM Bourse. 15h30, 18h. Et cette flamme-là ne s'éteint jamais, puisqu'après le direct, vous nous retrouvez, de plus en plus nombreux. D'ailleurs, on vous remercie en replay et podcast. Bienvenue à tous. On est ravis de vous accompagner. Étienne Braque est avec nous, puis la Tour Euronext. Rebonsoir Étienne, on est à une demi-heure de la cloche et de la clôture. Comment ça se présente pour le CAC ?
Eh bien écoutez, le CAC 40 est bien parti pour signer ce soir une troisième séance dans le vert, au-delà des 8000 points. Il est même sur les plus hauts niveaux de la séance, le CAC 40 à 8071 points grâce à une hausse de 0,9%. Le Dow Jones entame aujourd'hui sa cinquième séance dans le vert, l'obligataire qui se détend très nettement avec un 10 ans américain qui est sur des plus bas d'un mois à 4,45. Donc ça rassure les investisseurs qui tablent désormais sur plusieurs baisses de taux. Vous voyez, ça bouge très vite hein, par rapport aux anticipations de baisses de taux. Mais in fine, c'est ça qui fait le bouger le marché depuis plusieurs semaines et puis depuis plusieurs mois. À noter les résultats d'entreprise également qui continuent de rassurer les investisseurs, surtout en termes de gestion des coûts. Ça se voit aujourd'hui avec Adecco à Zurich ou encore avec Infineon à Francfort qui gagne quasiment 10% et qui permet aujourd'hui à STM de gagner plus de 2%. Enfin, un dernier mot sur le secteur bancaire qui là aussi rassure. On l'a vu ces derniers jours avec BNP. Aujourd'hui, c'est UBS qui surprend positivement à Zurich. Rendez-vous compte, en l'espace d'un an, vous avez l'Eurostoxx 50 qui gagne 40% et plus de 20% depuis le début de l'année.
Effectivement, secteur bancaire qui envoie des signaux très intéressants. On va en parler avec nos experts, bien sûr. Et les marchés toujours en mode, ascension cette semaine. C'est le cas de le dire. On est encore en hausse aujourd'hui. On essaiera de voir jusqu'où cette hausse pourrait aller. On viendra sur le carton des financières, effectivement, leur belle publication. Alors à l'inverse, certaines valeurs parmi les plus chères du marché sont vendues. On sent un petit signe d'essoufflement, même sur Ferrari. Belle publication de Ferrari. Au-dessus des attentes, les prévisions ne sont pas rehaussées pour la suite, elles sont juste maintenues, bah ça déçoit un peu le marché. Et Ferrari qui recule à Milan de 3% aujourd'hui. Est-ce un signal? Et puis on parlera aussi cognac dans la suite de BFM Bourse, parce que le segment du cognac, les spiritueux, cartonnent aujourd'hui. Rémy Cointreau gagne quasiment 5% après la visite de Xi Jinping en France. Peut-être des annonces positives à venir pour ce secteur. On est à vos côtés, bienvenue à tous, on joue dans votre camp pour encore 53 minutes.
BFM Bourse, le club de la bourse.
Alors, il y a un titre aujourd'hui qui fait vraiment la grimace, c'est Disney. Des perspectives en matière de streaming qui douchent le marché. Disney perd 9% à Wall Street, alors que les trois indices sont dans le vert. 9% de baisse pour Disney. On en parlait avec John Plassard, c'était à 15h30 dans USA Today. Si vous avez raté le direct, le replay est disponible. Replay sur notre site BFM Bourse, notre application également BFM Business. Vous allez dans BFM Bourse et dans la rubrique replay, c'est extrêmement simple. Les marchés, quel potentiel? Frédéric Rosier et Stéphane Déo ce soir nous accompagnent. Bonsoir messieurs.
Bonsoir.
Bienvenue Stéphane Déo pour Eleva Capital, Frédéric Rosier pour Mirabeau. Peut-être d'abord l'état général des marchés. On parlera de Xi Jinping dans un instant, du bilan de sa visite. On parlera également d'Apple, que Warren Buffett allège fortement. On parlera de plein de choses. Mais l'état général du marché, comment est-ce que vous le sentez? Le CAC reconquiert les 8000, alors avec un vent contraire quand même. Stéphane, c'est les détachements de dividendes. C'est bête, mais sur le CAC, du coup, ça rend un peu plus compliqué la reconquête des 8000. Ben oui, puisque les dividendes qui se détachent, c'est autant de points en moins qui sont tranchés en fait sur le CAC. Mais voilà. Au-delà de cette question technique, comment est-ce que vous sentez le potentiel à venir en bourse?
On reste relativement constructif sur l'Europe. Alors effectivement, le CAC est dividende non réinclus. Donc forcément, quand vous détachez le dividende, ça fait baisser le CAC mécaniquement. Ce qui est un peu idiot d'ailleurs, parce que quand on regarde la performance du CAC sur 10 ans, ça ne représente pas la vraie performance boursière, parce que c'est comme si on redonnait le dividende ou qu'on le laissait dans la nature. Donc la performance du CAC est beaucoup plus importante que ce qu'on lit de temps en temps. Mais pour revenir à la question, nous on est relativement constructifs sur l'Europe, essentiellement pour deux raisons. La première raison, c'est que les valorisations restent relativement faibles, en particulier par rapport aux États-Unis. Alors on était sur des niveaux qui étaient vraiment extrêmes il y a quelques mois, c'est-à-dire il y avait une décote, il y a toujours une décote européenne par rapport aux États-Unis, mais la décote était vraiment extrême. Là, on est un petit peu moins extrême, mais on reste sur des décotes importantes. Et le deuxième point, c'est que la macro a l'air de s'améliorer doucement. C'est l'Europe, pas attendre de miracles. Mais on a des indicateurs avancés qui remontent. On a l'inflation qui baisse et donc qui ouvre la porte pour la BCE à baisser des taux. Donc on a quelque chose qui est pas mal d'un point de vue macro. Et dernier argument, la micro est bien aussi. La saison des résultats était bonne. Alors une fois de plus, on a des surprises sur les bénéfices qui sont beaucoup plus fortes que les services sur les chiffres que les surprises sur les chiffres d'affaires. Donc par définition, ça veut dire que les marges sont meilleures qu'attendues. C'est récurrent. Ça fait plusieurs trimestres, voire plusieurs années que ça tient. Donc quand on met tout ça bout à bout, on a quand même un cocktail qui ne devrait pas nous amener très très haut, parce qu'on a déjà eu quasiment 6 mois de reprise non-stop. Mais on reste sur des marchés qui sont porteurs, et en particulier pour les cycliques.
Et particulièrement pour l'Europe ou pas? On est à 2 jours, ce sera le 9 mai. 2 jours, messieurs, de la fête de l'Europe. Mais oui, la journée de l'Europe, tout le monde l'ignore, chacun passe à côté, c'est quand même dommage. C'est une journée importante le 9 mai. Est-ce que l'Europe en bourse, comme le suggérait Stéphane à l'instant, a peut-être une carte à jouer face à Wall Street? Est-ce que les prochains mois seront des mois européens sur les marchés, avec les premières baisses de taux qui viendront non pas de la Fed, mais sans doute de la BCE? Frédéric.
Alors, voilà, la baisse des taux, c'est même plus une surprise. Donc aujourd'hui, on peut dire que c'est largement, voire totalement intégré sur le marché.
Il casse l'ambiance, dirait. Vous,
non, mais bon,
vous invitez à vous casser la vaisselle. Quoi.
Si les taux baissent en juin, on va pas faire waouh, ça a baissé quoi. Donc honnêtement, on nous l'a vendu survendu. Ça serait plutôt une catastrophe si c'était pas le cas. Après, effectivement, il y a beaucoup de rattrapage de valorisation sur le marché. Là où j'entendais. Avant d'arriver les chiffres, la performance d'UniCredit, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de rattrapage sur le secteur bancaire en Europe. On a vu UBS. C'est quand même des banques qui étaient vraiment dans le dur ces dernières années. Et avec la hausse des taux et donc la rémunération qui augmente pour le secteur bancaire, la profitabilité qui augmente, on voit que l'ensemble du secteur bancaire, qui représente quand même un certain montant, un certain pourcentage des indices, va aider quand même l'indice à se maintenir et à progresser. On voit aussi un rattrapage sur les valeurs cycliques. Très intéressant, les publications et les réactions sur les publications. Infineon, quand on regarde les chiffres, on dit « ouais, bof ». On est quand même sur des guidance qui sont en dessous, révisé à la baisse, il y a 800 millions de moins quand même sur les guidance, sur les marges, bof, hein, c'est 4% de moins sur les marges.
Les experts de Kepler étaient avec nous tout à l'heure et nous disaient la publication est mauvaise.
Elle est très mauvaise. Elle est très mauvaise,
mais le titre gagne 10%.
Et voilà, c'est aussi une réaction qu'on a eue. Alors là, pour le coup, c'était plutôt bon, mais c'est sur Saint-Gobain, avec un discours derrière en disant, mais finalement, le plus dur est derrière nous. Et c'est le sentiment qu'on a aujourd'hui sur beaucoup de ces publications, c'est que, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, il y a beaucoup qui disent, effectivement, le plus dur est derrière nous et qu'on est plutôt dans une phase de recovery. Et donc ça, c'est intéressant parce qu'on voit, et c'est le cas sur le marché, beaucoup de valeurs en souffrance, qui étaient en souffrance, en train de récupérer. Par contre,
les mal-aimés du marché remontent.
Par contre, si vous regardez bien, c'est un peu le cas du luxe, hein, qui a des valeurs bien valorisées, elles progressent plus. Elles ont vraiment du mal. Certaines valeurs industrielles aussi bien valorisées ont un peu de mal. Donc on voit qu'il y a un plafonnement pour certaines valeurs, mais par contre, un rattrapage sur les mal-aimés parce que, effectivement, l'environnement économique semble être moins difficile que ce qu'on pouvait attendre il y a encore quelques
en zone euro, on a un chiffre qui corrobore ce que vous nous dites, les ventes au détail, c'est la consommation quand même, les ventes au détail progressent de 0,8% en mars, c'est plus qu'attendu, c'est un petit signe supplémentaire de reprise pour la zone euro, c'est quand même un signe encourageant supplémentaire, très bien. Et alors ce qui va dans le sens de ce que vous nous dites, c'est ces valeurs chères qui avaient déjà été jouées, elles s'essoufflent, Ferrari aujourd'hui, belle publication pour le coup Ferrari, le titre perd 3%.
Bah,
même Ferrari quoi. Et puis à l'inverse, les mal aimés du marché ont tendance à remonter. Effectivement, les small et mid cap, depuis un mois, le CAC small gagne 2,5%, plus 2,5%, alors que le CAC lui perd plus d'1%. Voilà, on a ce retour des mal aimés. Dans le secteur bancaire aussi, UniCredit, incroyable. On est sur une banque européenne énorme, la deuxième plus grande banque italienne. Sa performance boursière est équivalente à celle d'Nvidia. Sur 3 ans, UniCredit a progressé autant qu'Nvidia. On ne l'avait pas vu venir, ça, Stéphane. Ils viennent de loin, on est d'accord. C'est une banque italienne qui a pas mal souffert. Mais...
Alors, la
on rappelle, 400% de hausse en 3 ans, Nvidia 480% de hausse.
Alors, la compliance chez moi m'oblige à préciser que je suis actionnaire des sociétés dont je parle. Donc, nous sommes actionnaires d'Nvidia et d'UniCredit. UniCredit, oui.
Ça, il n'y aura pas de jaloux.
Voilà. Non, UniCredit, c'est une très belle histoire. Ils ont un tier 1 capital, c'est-à-dire un niveau de capital qui est probablement trop élevé, ou en tout cas qui est très confortable. Donc ça veut dire que tous les bénéfices qu'ils font, ils ne le gardent pas, ils le rendent à l'actionnaire. Donc vous le rendez sous forme de rachat d'actions, ce qui veut dire que c'est relutif pour les actionnaires qui restent, et vous le rendez sous forme de dividendes. Le total yield, c'est-à-dire tout l'argent qui est rendu, c'est, ça dépend comment on calcule, mais entre 10 et 12%, grosso modo. Donc vous êtes assis sur une machine à cash qui est absolument impressionnante. Et c'est une banque qui est bien gérée. On avait peur des problèmes d'actifs parce que c'était le réflexe pavlovien de 2008, 2009, etc. En fait, il n'y a pas du tout de problème sur l'actif. Il y a certaines provisions qui peuvent être reprises. Donc oui, c'est un très beau dossier à mettre en fond de portefeuille et qui va générer 10, 12% de return chaque année.
Ce qui n'est pas le cas d'Nvidia, pour le coup. Il n'y a pas le return...
Ah non, c'est pas du tout la même histoire.
C'est incroyable.
Non, c'est pas du tout la même histoire.
Même performance boursière en 3 ans, mais beaucoup plus de rendement, en revanche, sur UniCredit. C'est quand même fou.
Oui, mais c'est pas du tout la même histoire. Non,
mais c'est pas ça que c'est dingue.
Nvidia, c'est des bénéfices qui explosent.
Pour l'actionnaire, l'argent, c'est de l'argent, Stéphane. On est d'accord.
Bien sûr. Mais on joue pas la même chose. Dans un cas, on joue une espèce de, dans notre jargon, on appelle ça un bond proxy. C'est-à-dire une grosse entreprise très stable qui va vous rendre du cash de manière très récurrente et de plus en plus, en fait. Hein, parce que plus vous avez de rachats d'actions, moins il y a d'actionnaires, plus vous allez pouvoir rendre de cash à l'actionnaire. Donc c'est magnifique, hein, ça fait boule de neige. Oui. Nvidia, c'est pas du tout la même histoire.
Attendez, on va poser la question franchement. Peut-être à vous, Stéphane, ou pas, laquelle vous préférez des deux? Vous les avez toutes les deux en portefeuille, vous pouvez
peut-être
les deux,
il faut jouer les deux.
Oui, d'accord. Ah, donc, pareil, autant les deux. UniCredit.
Oui, parce qu'une fois de plus, c'est pas du tout la même histoire.
D'accord, elle se complète.
Et donc, il faut pas mettre juste une valeur en portefeuille. Donc,
c'est incroyable. On est en train de comparer, même si elles sont incomparables, c'est vrai, mais en termes de performance, Nvidia est une banque italienne, une grosse banque italienne, UniCredit. Voilà, c'est 400% de hausse chacune depuis 3 ans. Même performance
c'est
pour
Unifed. C'est beau le zoom, hein, quand on zoome sur 3 ans et qu'on évite de regarder sur 10 ans. On fait dire ce qu'on veut à un graphique.
C'est vrai, ça.
Voilà, donc il faut être honnête. Il y a eu beaucoup de problématiques sur UniCredit et il y a eu un énorme travail avec une direction qui avait changé à l'époque, avec des gros programmes de restructuration. Donc le travail a été fait. Mais on revient de très très loin sur UniCredit. Mais effectivement, le recovery est magnifique.
Est-ce que c'est un symbole global et un signal pour le secteur bancaire? Les publications dans le secteur bancaire ont été très positives quand même.
Sauf Société Générale qui a souffert énormément sur la publication. Donc après c'est au cas par cas mais lorsqu'on regarde les banques espagnoles, quand on regarde les banques italiennes, c'était plutôt des secteurs qui étaient très mal aimés par le passé. On s'aperçoit qu'il y a des performances incroyables. Et même Deutsche Bank par exemple, qui était aussi en énorme souffrance, on peut la mettre aussi en parallèle avec UniCredit. Il y a eu des sacrées histoires.
UBS aujourd'hui nous annonce sur sa publication son retour aux bénéfices, les premiers bénéfices depuis qu'UniCredit a dû racheter Crédit Suisse. UniCredit gagne 9% là, la bourse de Zurich. On est dans cette thématique toujours du retour des mal aimés. Voilà, secteur bancaire qui remonte très très fort. Effectivement, ce train devrait se poursuivre, retour des mal aimés, Stéphane, dans les prochaines semaines, prochains mois. C'est puissant là ce qui est en train de s'enclencher.
Oui, dans une certaine mesure, je pense, en particulier sur tout ce qui est cyclique. Alors je ne sais pas si on met les bancaires dans les cycliques, a priori oui, mais c'est débattu. Mais on vient, c'est un peu ce que tu disais tout à l'heure, on vient d'une période l'année dernière où la croissance était extrêmement faible. On est sur un rebond, donc il y a certaines valeurs qui devraient en bénéficier. Et oui, je pense qu'il y a des valeurs qui sont sous-cotées et qui devraient continuer à performer relativement bien dans les mois qui viennent, en Europe, mais pas aux États-Unis. C'est une histoire qui est très différente aux États-Unis.
Messieurs, on est à 17 minutes de la clôture. On accélère, c'est la dernière ligne droite, vous l'entendez. On accélère vers la hausse d'ailleurs. On accélère en hausse, plus 1,1% sur le CAC désormais. Effectivement, le CAC est proche des 8100 points. 8077 points. Les autres indices aussi en hausse en Europe et à Wall Street, plus 0,3% sur les S&P 500. La plus forte progression, on le disait, vous l'évoquiez à l'instant Frédéric, grâce à Infineon, ST Microelectronics gagne 3,1%. On voit aussi Pernod Ricard bien progresser, on va en parler dans une poignée de secondes. Et puis à la baisse, ArcelorMittal qui perd 1,5%. On appellera Étienne aussi, Étienne Braque, dans un instant à la Tour Euronext. En tout cas, on s'oriente vers une clôture positive. Si vous vous demandez quels sont les prochains seuils techniques, vous le savez, on vous propose un portefeuille trading BFM Bourse. Notre analyste technique qui était avec nous, Alexandre Tixier, c'était à 15h50 tout à l'heure. Si vous avez raté le direct, le replay est disponible sur notre site BFM Bourse. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous remercier, vous tous, parce qu'au mois d'avril, il se trouve que BFM Bourse a encore vu son nombre de téléchargements en podcast et replay progresser de 135%. Un immense merci à vous tous, et c'est tout simplement grâce à vous. Voilà. Et grâce à vous, grâce à nos experts et nos intervenants, Frédéric Rosier et Stéphane Déo, ce soir, nous accompagnent. On va parler cognac, messieurs. Je sais que ça vous fait plaisir. Parce que, voilà, c'est dans le cognac qu'on voit la plus grande effervescence du marché aujourd'hui. Notamment Rémy Cointreau, 5% de hausse à l'issue de la visite de Xi Jinping. Pernod Ricard, 2,5% de hausse à l'issue de cette visite de Xi Jinping. Effectivement, c'est cette parole, ce mot d'Emmanuel Macron qui a dit que la Chine allait sans doute éviter de taxer les cognacs français en attendant le résultat de l'enquête anti-dumping. Et ça apporte vraiment une bouffée d'oxygène. On le voit notamment à Rémy Cointreau. Est-ce que le marché s'emballe un peu trop vite sur cette thématique ?
On s'autorise à penser dans les milieux autorisés. C'est-à-dire que pour l'instant, c'est... On dirait du Coluche, c'est-à-dire on s'autorise à penser dans les milieux autorisés. Okay. C'est-à-dire qu'il y a effectivement une phrase qui a été lâchée effectivement sur les négociations. Vous savez que de toute façon c'est récurrent en Chine, hein, sur le cognac, c'est un élément de pression relativement fort et il y a une réaction. Après, la réaction quand vous avez une hausse de 4-5%, lorsqu'on connaît le poids de la Chine, par exemple, chez Rémy, c'est un quart du business. Hein. Alors, il faut minorer, par exemple, sur Pernod, ça doit être aux alentours de 10%, un peu en dessous.
C'est pour ça que Rémy réagit plus que Pernod Ricard en pourcentage.
Ouais, quand Paris, ça doit être 10, et bien sûr, à LVMH, c'est beaucoup moins. Mais effectivement, il y a une réaction. Et ce qui m'intéresse quand même dans le marché, c'est que vous avez le secteur automobile qui est plus en souffrance. Alors, je vais juste interpréter le mouvement, c'est qu'on est en discussion entre automobile, cognac. Cognac, c'est à peu près 1,5 milliard en Chine. La France, le secteur automobile, c'est plusieurs centaines de milliers de personnes qui sont concernées. Donc, il ne faudrait pas qu'on oppose aussi le secteur automobile avec le cognac.
Oui.
Parce que là, le marché, cette réaction, on peut se poser la question de savoir si, oui ou non, on ne serait pas dans... écoutez, lâchez un petit peu sur le cognac, on lâchera un petit peu sur le secteur automobile. C'est une petite réflexion sur le mouvement, parce qu'on voit que Renault était un petit peu dans le dur par rapport à un marché haussier. Stellantis l'était tout à l'heure, elle était à l'équilibre au moment où on se parle, mais elle sous-performait le marché.
Elle sous-performait les deux, oui.
Donc, voilà, c'est une question
que... voilà, ce que la Chine offrirait à la France sur le cognac, elle ne l'offrirait pas sur l'automobile, ce qui, pour l'économie française, serait peut-être un peu dommage. Et les voitures, jusqu'à preuve du contraire, ne roulent pas au cognac. Donc,
voilà, c'est une petite réflexion sur le marché parce que c'est assez marqué, je trouve, aujourd'hui.
Oui. Votre regard, effectivement, secteur automobile, à l'issue de cette visite de Xi Jinping, qui recule un petit... Rien de méchant, hein, mais voilà, il n'y a pas eu de miracle, alors que pour l'univers des spiritueux, il y a peut-être un miracle qui va se produire. Voilà. Comment est-ce que vous regardez le bilan de cette visite de Xi Jinping en France, Stéphane ?
Pour l'instant, le secteur automobile, effectivement, il sous-performe, mais c'est, pour moi, c'est très très marginal. Et puis, on a eu une belle performance depuis quelques mois. Donc, je pense que c'est aussi une respiration. Moi, j'ai un peu tendance à pas surinterpréter ce qui se passe à l'heure actuelle. C'est peut-être simplement des prises de position qui n'ont rien à voir avec la visite de Xi Jinping. Donc, je n'irai pas beaucoup plus loin que ça. Ça reste un secteur qui est intéressant, un peu pour les mêmes raisons qu'UniCredit. C'est que vous avez énormément de cash et que c'est un secteur qui potentiellement peut commencer à racheter des actions, à payer des dividendes.
On parle des spiritueux là. On parle des spiritueux.
Non, dans
l'automobile. De l'automobile. Pardon, ouais, j'avais raté une.
Les Stellantis, par exemple, peuvent retourner énormément à l'actionnaire.
Oui. Alors justement, cette visite, elle s'achève. Les deux présidents, Xi Jinping et Emmanuel Macron, étaient aujourd'hui dans les Pyrénées. On n'est pas très très loin de chez vous d'ailleurs, Stéphane.
De l'Armagnac.
Exactement, pas très loin de l'Armagnac en l'occurrence, effectivement. Voilà, un peu plus à l'intérieur. J'imagine qu'Emmanuel Macron aurait aimé que cette dernière visite, ce dernier rendez-vous entre les deux présidents se fasse sous une tempête de ciel bleu. Bah, c'était une tempête de neige qui les a accueillis au cœur des Pyrénées. Voilà, pour cette dernière journée du président chinois en France. Énorme tempête de neige, les images sont impressionnantes. On les voit, les deux présidents, dans le brouillard, sur un sol glissant. Voilà. Peut-être une forme de métaphore des relations européo-chinoises. Là, voilà. Mais c'est un brouillard qui a accueilli tout à l'heure les deux présidents. Là, Xi Jinping, il s'est envolé pour la Serbie. Prochaine étape de son voyage en Europe. C'est un pays beaucoup plus russophile, pour le coup, proche en tout cas de la Russie, effectivement. Puis une forme de cheval de Troie de la Chine en Europe aussi, la Serbie, puisque les Chinois y ont multiplié les investissements dans leur route de la soie ces dernières années. Bon, on continuera de suivre, bien sûr, les aventures de Xi Jinping en Europe, ces aventures qui se poursuivent. Il y a plein de questions autour de ça. La dynamique chinoise, et on y reviendra tout à l'heure, vous avez des chiffres et des datas fortes à nous apporter. Ce sera dans quelques minutes, Stéphane. Dernière question que je voulais vous poser. Avant de retrouver Étienne à la tour Euronext. Est-ce qu'il faut encore écouter et suivre Warren Buffett, qui allège quand même de 13% sa position dans Apple? C'est l'un des faits marquants aussi de ce début de semaine. Voilà, Warren Buffett, premier actionnaire d'Apple quand même, avec Berkshire Hathaway, qui allège d'un coup sa position de 13%. Est-ce qu'on se dit que l'avenir, c'est Warren Buffett qui le décide, ou que c'est plutôt encore Apple, en l'occurrence?
Alors, il a un portefeuille hyper concentré aussi. Hein. On a 5 valeurs qui représentent les 3/4 de ses positions. Donc, après, qu'il s'allège sur Apple... C'est pas illogique parce que il y a une vraie réflexion sur le résultat d'Apple parce que comme Apple nous raconte une histoire sur l'intelligence artificielle, sur les services, la question c'est aujourd'hui la base installée d'Apple. On estime qu'il y a à peu près 2 milliards d'appareils Apple en activité. Mais on voit que les ventes de téléphones, d'iPad ont tendance à baisser. Et donc la question c'est la pérennité de cette base installée. Est-ce que oui ou non ça va pouvoir maintenir des niveaux de service et une rémunération de service, parce que ça se transforme finalement en utilities, hein, clairement, Apple. C'est aujourd'hui, vous avez une base installée, vous avez des revenus récurrents qui arrivent sur cette base installée. Mais si vous n'avez plus de croissance de la base installée, quid des services? Donc, la question, et c'est pour ça que la réunion aujourd'hui, et notamment derrière sur les nouveaux produits d'Apple et sur l'IA, est très importante, parce qu'il va falloir redonner une dynamique de croissance pour pouvoir pérenniser cette base installée. Donc, je pense que Warren Buffett, qui est quand même le... Il a plutôt de l'expérience, c'est moins qu'on puisse dire, se pose un petit peu ce genre de questions, mais il y a aussi une volonté pour lui, je pense, d'être extrêmement prudent sur le marché, parce qu'il a plus aujourd'hui 200 milliards, hein, je regardais encore les chiffres.
De liquidité.
De liquidité à disposition, donc c'est relativement important, ça représente 20-25% de ses actifs, plus derrière les bons du Trésor américain aussi, qui est une bonne partie de ses activités.
John Plassard, votre collègue chez Mirabeau, nous disait hier, ils ont tellement de liquidité chez Berkshire Hathaway qu'ils pourraient à eux seuls en cash racheter McDonald's. Par exemple. Voilà.
Oui,
sans problème. Disney aussi d'ailleurs.
Oui, et pas loin de Total aussi. Donc,
tout de suite, les gros mots.
Non, mais il aime bien le pétrole, hein, puisqu'il était actionnaire de Chevron, notamment, et Occidental Petroleum. Donc, pourquoi pas? Mais voilà, je pense qu'il y a aussi, à mon avis, de la part de Warren Buffett, qui est extrêmement prudent, une volonté de se préserver éventuellement d'aléas de marché.
L'avenir, c'est Warren Buffett ou c'est Apple, Stéphane?
Alors, du coup, je ne suis pas actionnaire d'Apple. Mais...
Ça peut être les deux, hein, puisqu'il est, ouais. est quand même le premier actionnaire d'Apple, lui.
Mais on commence à regarder... tu parlais de la base d'instruments qui sont disponibles. Il y a aussi la nouvelle puce qui va être émise, qui est un M4.
Nouvelle puce d'intelligence artificielle.
Qui est, voilà, exactement. Il y a plusieurs façons de faire de l'intelligence artificielle. ChatGPT, vous avez le cloud, vous allez taper dans le cloud quand vous posez des questions. Vous avez de l'intelligence artificielle décentralisée, où en fait, vous avez des puces qui ont été entraînées, qui sont individualisées. Vous pourriez très bien avoir quelque chose dans ce goût-là, annoncé par Apple, justement à cause de cette puce-là. Et donc, ce serait un grand bond en avant sur l'intelligence artificielle que vous détaillez. Et donc, il y aurait en fait un programme pour chaque personne. Si il s'engage dans cette direction-là, je pense que le marché va beaucoup, beaucoup apprécier. Et Apple a beaucoup sous-performé depuis quelques mois. Donc, à un moment donné, il y a un pari à faire, évidemment. Je ne suis pas dans le secret des dieux. Mais c'est quand même une très belle maison qui se réinvente tous les 5 ou 10 ans. Donc, ne pas avoir d'Apple, c'est faire le pari que ben, c'est fini, ils ne savent pas se réinventer. Ce qui est peut-être la bonne chose. Hein. Mais... je pense que ça se regarde.
Étienne nous appelle 17h20. Oui, on est à 8 minutes de la clôture, 17h27. Depuis la tour Euronext, Étienne, vous voulez nous signaler ce mouvement, cette accélération à la hausse, à l'approche de la clôture en Europe. C'est une bonne nouvelle qui nous attend sans doute donc tout à l'heure quand on va clôturer.
En effet, depuis 14h, vous avez un CAC 40 qui accélère en ligne droite, ou presque, hein, 8074 points sur le plus haut niveau de la séance, plus 1% à l'instant pour le CAC 40. Alors bon, ce ne sera pas le grand soir en termes de volume, et ce ne sera pas le grand soir tout au long de la semaine. 1,3 milliard d'euros négociés dans l'indice à 7 minutes du fixing, ça montre bien qu'il n'y a pas grand monde sur le marché, mais néanmoins, vous avez des investisseurs qui reviennent sur le secteur bancaire, sur le secteur des semi-conducteurs. À l'inverse, les valeurs cycliques sous-performent un petit peu aujourd'hui. Du côté de Wall Street, c'est également une belle séance avec un Dow Jones qui enchaîne aujourd'hui sa 5e séance dans le vert. Et puis, puisque vous parliez d'Apple et puis cette keynote qui s'est tenue aujourd'hui avec nos nouveaux iPads, et bien ça plaît au marché puisque le titre qui était en baisse hier se reprend désormais avec une hausse de 0,3% à $182.
Encore mieux que la tech en bourse, investir dans les holdings cotés. C'est la conviction d'Emeric Didier de Pergam. Il nous le disait, c'était la bourse cash à 15h40. Oui, les holdings cotés retrouvent du potentiel et... sont partis pour nous surprendre. C'est son point de vue qu'il a vraiment affirmé avec force argument à 15h40. Le replay est disponible, se verra-t-il direct sur notre site BFM Bourse. Il est 17h27, on entre dans la data room. Le poids du monde et le choc des data. C'est votre collision quotidienne avec le réel, la data room. Frédéric et Stéphane, êtes-vous prêts?
Oui,
nous sommes prêts.
C'est ici et maintenant que tout se joue. Vous avez chacun une minute trente, pour nous présenter une data forte qui en dira davantage qu'un long discours. On va démarrer avec vous, Stéphane. Votre chiffre, votre data ce soir, c'est plus 6,5%.
C'est la performance de la Chine le mois dernier, d'après l'indice MSCI. Alors que les États-Unis étaient en baisse, l'Europe était en baisse, c'est la meilleure performance mondiale parmi les grands indices. Il y a vraiment un changement. On a touché un plus bas en janvier-février avec des valorisations qui étaient extrêmement basses. Depuis, non seulement l'indice rebondit, mais on commence aussi à avoir des flux très nets. On appelle ça des South Bound Flow. C'est les Chinois mainland qui investissent à Hong Kong. Donc il y a des rachats de plus en plus. Et j'ai participé à un sondage de Goldman Sachs il y a quelques heures. Vous avez l'immense majorité des investisseurs qui maintenant sont plutôt positifs sur la Chine. Et il y en a très très peu qui sont pessimistes sur la Chine. Donc il y a vraiment, je pense qu'on a vraiment passé un point d'inflexion sur la Chine. On a digéré beaucoup beaucoup de mauvaises nouvelles. Les valorisations étaient vraiment cassées. Il y a un potentiel de rebond. Et je pense que ce qui s'est passé le mois dernier n'est pas une aberration. C'est plutôt le début d'une espèce de rattrapage partiel, mais d'un rattrapage partiel de la Chine.
Le mois dernier, donc, cette performance de l'indice MSCI chinois, plus 6,5% en avril, ce qui en fait le meilleur performeur
mondial.
Ah oui, la Chine, effectivement. Et donc, c'est que le début à vos yeux. Même si le ralentissement démographique ne s'évanouit pas, ne s'éteint pas, parce qu'on dit toujours « Ah, la Chine, la Chine !» Enfin, la Chine vieillit autant que nous, et c'est peut-être plus grave encore là-bas, parce que eux, c'est pas le cas en France, notre population ne décline pas, la leur, la population chinoise, elle
décline. Elle décline. Alors, l'idée, c'est pas de dire « Toi, très bien, Madame la Marquise », l'idée, c'est de dire « Il y a effectivement beaucoup de problèmes en Chine, mais ces problèmes ont été surpricés par le marché, donc on est arrivé à des niveaux très très bas. Si la Chine, une fois de plus, rattrape complètement les États-Unis ou l'Europe en termes de valorisation, là, je reviendrai avec le discours complètement inverse. » Par contre, comme d'habitude, ou comme très souvent, le marché a pris la bonne thématique, mais il l'a poussé, il faut être pessimiste sur la Chine, mais il l'a poussé beaucoup, beaucoup trop loin, et là, on a le retour de bâton.
Le Borussia Dortmund perdra-t-il ce soir face au PSG? Je sais que cette question, vous la posez l'un et l'autre, oui, bien sûr, sans transition. Ce match retour de la Ligue des Champions est, depuis le match aller, le titre Borussia Dortmund, parce que le club est coté en bourse à Francfort, le titre avait gagné 5% depuis le match aller. Et bien aujourd'hui, il recule à l'approche du match retour. Il commence à avoir peur, là, les assisseurs. Moins 0,2% après avoir pris 5%. On pourra dire, en tout cas, vous aurez, vous tous qui nous suivez dans BFM Bourse, vous aurez aujourd'hui, au moins ici, entendu que le Borussia Dortmund perd du terrain en bourse. Après, on espère que ce sera le cas aussi ce soir sur le terrain. Moins 0,2% ce soir. Frédéric, à vous de jouer. Et là, Stéphane a mis la barre très très haute avec cette data concernant le marché chinois. Vous avez la pression, Frédéric. Votre data ce soir, 2,1 milliards de dollars.
2,1 milliards de dollars, c'était l'excédent d'épargne des ménages américains suite au Covid. Vous savez, l'hélicoptère monnaie, oui. Les chèques qui arrivaient sur le compte des ménages américains. Alors, maintenant, sur toutes les statistiques, on est d'accord, l'ensemble des ménages de cet excédent d'épargne a été totalement avalé par les ménages. Donc, on est même en destruction d'épargne au moment où on se parle. Ce qui est très intéressant, c'est que quand vous n'avez plus d'épargne, ou en tout cas, vous avez pris une partie de cette épargne, il va falloir emprunter. Et donc, on voit un mouvement sur les cartes de crédit. Ce qui est intéressant sur les cartes de crédit, je ne sais pas si vous savez comment ça fonctionne aux États-Unis. Les cartes de crédit, les taux, donc il y a des franchises généralement pour appâter un peu le client à 0% sur les 3 premiers ou les 6 premiers mois. Puis après, ça monte jusqu'à un plafond de 29%. Donc, on va voir un petit peu à quel niveau le ménage américain va continuer à dépenser lorsque on va avoir des taux qui vont effectivement rester relativement hauts et on va avoir des dépenses de plus en plus chères. Donc, c'est intéressant parce que ça a été un soutien. Finalement, lorsqu'on regarde ce poids d'excédent d'épargne par rapport à la croissance du PIB américain, c'est pas négligeable dans la performance économique américaine. Donc, on va voir comment les États-Unis vont réagir, notamment sur la consommation qui représente les deux tiers du PIB américain. Comment ça va réagir lorsque les Américains vont plus utiliser cette épargne, mais en vont emprunter pour consommer?
Mais j'ai cru comprendre que le revenu avait progressé aux Américains.
Oui, il y a une partie du revenu.
Voilà. Alors, et c'est là, ils n'ont peut-être pas besoin de s'endetter tant que ça.
Il faut voir aussi la segmentation. C'est que le problème, c'est qu'il y a une segmentation là-dessus et que d'ailleurs, ça se calme un peu sur les salaires aux États-Unis aussi. Il faut voir aussi le niveau de surendettement qu'on aura aux États-Unis dans les mois qui viennent.
Vous êtes pessimiste.
C'est un point de vigilance parce que c'est vrai qu'on a vécu un petit peu à crédit, on va dire, depuis 3-4 ans depuis le Covid. Et là, on va arriver finalement un petit peu dans le dur sur cette part de la consommation et de l'épargne.
Ce pessimisme extrême de Frédéric, est-ce que...
Non, c'est de la réalité. Plaisant, on va pas se réveiller dans 10 ans en disant, tiens, voilà, c'est juste un point d'alerte pour voir comment ça réagit effectivement.
Ce point de vigilance.
Voilà,
est-ce que vous le partagez, Stéphane?
Sur le niveau de l'épargne. Je vais vous donner un chiffre. La croissance... par trimestre, l'année dernière, aux États-Unis, c'était entre 2,5 et 3. Là, le consensus attend 1,5 de croissance. Donc, à peu près une petite moitié. C'est tout à fait cohérent avec ça. On ralentit, c'est pas un désastre, c'est pas une crise, c'est pas une récession, mais on va pas rester... On a eu 6 trimestres de suite avec une croissance au-dessus du potentiel. Il y a un moment où ça ne peut que se tasser, et on a... alors, tu parlais de la conso, on a beaucoup de données qui sont un petit peu médiocres, mixtes, à l'heure actuelle aux États-Unis.
Dû à ce phénomène.
Alors qu'en Europe, ça repart. Oui, les ventes au détail supérieures aux attentes au mois de mars, plus 0,8%, mesdames, messieurs. Ah, mais c'est un petit signe encourageant quand même pour l'Europe. Merci à tous les deux de nous avoir accompagnés. Stéphane Déo pour Eleva Capital, Frédéric Rosier pour Mirabeau France, et dans un instant, c'est Étienne Braque qui va nous appeler la clôture en direct sur BFM Business. A tout de suite.
BFM Business, BFM Bourse, la clôture à Euronext.
Étienne Braque avec nous pour cette clôture ce soir depuis la salle de contrôle du CAC 40. Comment termine-t-on, Étienne, aujourd'hui?
Dans le vert avec un CAC 40 qui clôture ce soir à 2 points des plus hauts niveaux de la séance. 8075 points au fixing, quasiment 1% de progression. Troisième séance dans le vert pour la Bourse de Paris. Bon, comme attendu, les volumes d'échanges ne sont pas énormes. Vous avez moins de 3 milliards, 2,9 milliards pour être précis, négociés ce soir au fixing. Néanmoins, vous avez plusieurs secteurs qui ont permis de tenir cette tendance. Secteur bancaire, avec notamment les résultats d'UniCredit et de UBS, qui ont largement profiter aux valeurs parisiennes, à l'image de BNP qui gagne 2% à 69,60. Vous avez Société Générale qui prend 2,5% à 24,81. Secteur des spiritueux également qui est soutenu avec des propos encourageants d'Emmanuel Macron concernant la Chine qui pourrait retirer des droits de douane sur le cognac. Pernod Ricard prend plus de 3%, Rémy Cointreau plus de 5% à 95,35. Et puis à l'inverse, Bouygues est sanctionné après la publication de ses résultats qui sont inférieurs aux attentes dans le secteur du bâtiment. La valeur perd 1,5% à 34,80. Du côté de Wall Street, c'est du vert également. Apple gagne 0,3% après sa keynote. Et puis surtout, Wall Street est dans le vert avec une nette détente de l'obligataire. Un 10 ans américain qui perd aujourd'hui 6 points de base à 4,43 quand le 2 ans de son côté se stabilise à 4,81. Alignement des planètes, le marché qui est rassuré après l'emploi américain vendredi qui était ressorti en dessous des attentes et puis qui table à nouveau sur plusieurs baisses de taux. Donc forcément, eh bien, ça fait baisser l'obligataire et ça, c'est bon pour le marché action. Et donc la Bourse de Paris qui clôture ce soir dans le vert avec une hausse de quasiment 1%, 8075 points pour cette semaine pleine, hein, puisque contrairement à la semaine dernière, le marché parisien ne fait pas le pont et sera ouvert tout au long de la semaine. Et
effectivement, le marché est en mode ascension pour cette semaine où il restera ouvert. Jean-Louis est avec nous, Jean-Louis Cussac puis Perceval. Bonsoir Jean-Louis, quel signal le marché envoie-t-il en clôture ce soir?
Il confirme un signal qui n'a jamais été infirmé, donc qui était haussier. On est passé par des périodes de petits doutes, mais voilà, on reste dans l'idée d'acheter sur des replis, de conserver un solde d'acheteur, d'aller vers des titres qui présentent du potentiel. Et d'ailleurs, il y a une très grande sélectivité. Enfin, les achats sont très ciblés, donc il n'y a pas de complaisance encore sur ce marché, même si on a quand même payé beaucoup d'anticipations favorables, mais le catalyseur, bah, ça peut être maintenant une reprise économique, une poursuite des résultats de société. Bon, bah, 8002, évidemment, ça pourrait être l'objectif à court terme. On a 70 points de dividende sur juin, donc il faut quand même en tenir compte dans sa manière de viser les niveaux. Mais pour l'instant, on est vraiment hors zone d'alerte. Et pour moi, l'alerte importante, le retournement, c'est 7815 futurs, mais à casser pour vraiment déclencher quelque chose. On est nettement au-dessus, zéro souci. Donc voilà, on reste positif sur ce marché.
Merci Jean-Louis. Jean-Louis Cussac qui va nous accompagner jusqu'à 18h. On va tout de suite refaire la séance à la radio, à la télé, mais aussi sur nos réseaux sociaux. On refait la séance diffusée en direct aussi sur notre fil X et notre fil LinkedIn, BFM Bourse. C'est parti.
BFM Bourse. On refait la séance.
Avec Julien Kistrebert qui ce soir nous accompagne pour Taylor AM. Bonsoir Julien.
Bonsoir.
Merci de nous accompagner. Vous pouvez nous suivre aussi bien sûr en replay, en podcast, toutes les interviews thématiques de l'émission. Vous êtes d'ailleurs de plus en plus nombreux à le faire. On vous remercie. On tient vraiment à vous remercier. Au mois d'avril, les téléchargements des podcasts et replays de BFM Bourse ont progressé de 135%. Voilà. C'est beau. Merci à tous. 319 000 téléchargements au mois d'avril pour BFM Bourse. Un immense merci également à tous nos intervenants qui se succèdent et répondent si souvent, comme vous Julien, à l'appel de BFM Business et de BFM Bourse. Alors ce soir, oui, le CAC 40 termine en hausse. Encore une hausse, c'est bien. Et on a un secteur qui cartonne en Europe, c'est le secteur financier. Les publications sur le secteur bancaire sont, alors, à l'exception peut-être de la Société Générale, mais elles sont toutes appréciées, elles sont toutes applaudies par le marché. Ce soir, UBS nous annonce renouer avec les bénéfices pour la première fois depuis le rachat de Crédit Suisse. UBS gagne quasiment 10% en clôture à Zurich. On a aussi UniCredit. En 3 ans, UniCredit a autant progressé sur le marché que Nvidia. Incroyable. Qui l'eût cru? Est-ce qu'on est... Alors UniCredit plus 400% en 3 ans, c'est bien, c'est beau. C'est un petit peu... ils sont un peu isolés là-dessus. Hein. Voilà, les autres banques n'ont pas autant progressé. Mais est-ce que vous vous dites qu'effectivement, le secteur bancaire, c'est peut-être le play du printemps qui souffle sur les marchés?
Ce qu'il y a de sûr, c'est qu'il y a un changement de vision. C'est-à-dire que pendant longtemps, on entendait beaucoup d'investisseurs dire « Moi, les banques, j'y toucherai jamais. C'est trop compliqué. » certainement évidemment des séquelles des catastrophes qu'on a pu avoir comme en 2008. Et on voit que là-dessus, en tout cas, c'est en train de changer. Bah, ça se voit à travers un ratio, alors, c'est un peu technique, mais la price to book, hein, la valeur de la capitalisation boursière par rapport à la valeur de l'actif comptable. Et on voit qu'on se rapproche d'une parité, en tout cas en termes de valorisation, alors qu'on a eu pendant longtemps des niveaux de multiples qui étaient extrêmement bas. Donc je dirais que c'est la beauté des valeurs cycliques, valorisation très basse, des résultats qui s'améliorent. Pourquoi ? Bah, des chiffres d'affaires qui augmentent, un environnement de taux qui est plus favorable, donc les marges d'intérêt augmentent, et puis en même temps, ils arrivent à réduire leurs coûts. Et donc bah, là-dessus, ça fait un effet de ciseau positif qui fait que les marges sont extrêmement solides. Tout ça dans un environnement où le coût du risque est extrêmement bas encore aujourd'hui. Et donc, bah, les banques sont en capacité de retourner du cash à leurs actionnaires via des rachats d'actions, des dividendes, etc. Et on voit que ce secteur, du coup, s'en sort plutôt bien et c'est, somme toute, assez logique au vu du contexte.
Et il y a quelques ovnis comme ça, comme UniCredit, immense banque italienne, la deuxième plus grande banque italienne, qui, en trois ans, bah, s'offre la même performance boursière qu'Nvidia. Voilà. C'est Valentin Offrand, hein, sur les réseaux qui a publié effectivement cette data et elle est très très forte. Vraiment, on tenait à rebondir dessus dans l'émission. Et Stéphane Déo nous disait tout à l'heure, ce qui est fou avec UniCredit, c'est que la performance en trois ans, alors le titre vient de très loin, quoi.
Oui.
La performance en trois ans est comparable à celle d'Nvidia. C'est fou, c'est une banque, grosse banque. Et le rendement, lui, est de 12%. Un rendement de 12%. Donc vous cumulez le rendement de 12% plus la performance boursière, c'est magnifique pour les actionnaires d'un groupe comme UniCredit. Alors qu'Nvidia n'offre pas de rendement, très très peu.
Tout à fait.
C'est une grande différence. Bon, est-ce que, oui, ce secteur, donc, à vos yeux, offre du potentiel, d'autant que dans cet univers des valeurs décotées, dans cet univers value, ben, un autre secteur, lui, tente à s'essouffler, secteur automobile. On voit le secteur auto, ce soir, après la visite de Xi Jinping, recule un petit peu, Renault, Stellantis, voilà, il n'y a pas eu de miracle à l'occasion de cette visite de Xi Jinping pour les groupes automobiles. Est-ce qu'on se dit que pour le secteur bancaire, ça dégage encore un peu plus la voie pour attirer les investissements, parce que pour les investisseurs value, ben voilà, c'est un secteur, là, l'automobile qui s'essouffle, donc peut-être un peu plus d'argent qui ira sur les banques plutôt que sur l'auto. Est-ce que dans les gestions,
oui,
on peut raisonner?
Oui, ça peut. Après, on va être franc, la gestion value, elle est toute petite, hein, maintenant, aujourd'hui, en termes de volume. Hein. Tout le monde a des produits croissance-qualité, donc les fonds pure value, aujourd'hui, c'est pas anecdotique.
Sauf que si elle monte, là, c'est la value et la croissance s'essouffle.
Exactement.
Ça que...
Exactement. Non, mais c'est assez logique. Donc, oui, il pourrait y avoir un arbitrage. Après, sur le secteur automobile, on verra ce que donnent, évidemment, les discussions avec la Chine, mais pour l'instant, pas de catastrophisme non plus. Hein. On a des titres qui ont bien baissé depuis, hein, les points hauts. On pense notamment à Stellantis, hein, qui vient de 27-28 euros, qui retombe à 20 euros aujourd'hui. Donc, c'est vrai que le titre est à un niveau qui, à notre sens, en tout cas attractif. Mais pour revenir sur le secteur bancaire, oui, c'est un secteur qu'on peut avoir en portefeuille, qui a des bonnes perspectives. Voilà, bah, des groupes comme ING, c'est du retour de cash, c'est des marges d'intérêt qui sont bien orientées aussi, des marges tout court sur les frais aussi. Donc, globalement, on a une dynamique qui est bonne. Et tant qu'on n'a pas de ralentissement économique plus marqué que ce que l'on a aujourd'hui, voire même on a des surprises du côté européen, pas de raison en tout cas que le secteur ne continue pas à bien performer.
Vous voulez qu'on parle cognac, hein ? Oui, je vous vois venir.
Pas spécialement.
Ouais. Non. Rémi Cointreau, ce soir, gagne 6%. On a Pernod Ricard aussi qui progresse d'un peu plus de 3%. Effectivement, à l'issue de cette visite de Xi Jinping, le président chinois, il semble que les acteurs du cognac français pourraient éviter une taxation, une taxe douanière chinoise, en attendant le résultat d'une enquête anti-dumping, quand même, qui suit son cours, elle. Voilà. Est-ce que ces valeurs-là, cette thématique-là, du coup, retrouvent beaucoup plus d'intérêt? Rémi Cointreau, plus 6 ce soir. Ouais. Vous aimez bien ce titre?
Moi, je dirais que finalement, Rémi Cointreau a moins rebondi que Pernod Ricard, hein, puisqu'ils ont une bien plus grande sensibilité au cognac que Pernod Ricard, qui est un groupe beaucoup plus diversifié et beaucoup plus international.
Ah oui, donc proportionnellement, vous trouvez que la hausse de Rémi Cointreau, finalement, est peut-être, même si elle est supérieure à celle de Pernod Ricard, cette hausse de Rémi Cointreau est finalement un peu décevante, quoi.
Elle est décevante pour, pas vu leur sensibilité au marché chinois et au cognac, donc tout à fait. Voilà, mais oui, avoir ce genre de valeur, enfin, on en a parlé il y a quelques semaines, hein, je disais que Pernod Ricard me semblait être sur des niveaux de valorisation qui étaient attractifs. Bon, Rémi, c'est un peu plus qui tout double, entre guillemets, hein, parce que si les droits de douane sont mis en place, finalement, c'est sûr que ça sera un peu plus sensible sur le titre. Mais en tout cas, Pernod, on peut y aller pour jouer cette thématique sans problème.
La visite de Xi Jinping qui s'achève, hein, les deux présidents, Xi Jinping et Emmanuel Macron, étaient aujourd'hui dans les Pyrénées. Alors on imagine qu'Emmanuel Macron espérait une tempête de ciel bleu, c'était une tempête de neige. Je ne sais pas si vous avez vu les images, ils étaient dans le brouillard sur un sol glissant. Bon, voilà, la météo n'était pas trop au rendez-vous. Et oui, le brouillard et la neige, un petit peu à l'image des relations quand même en ce moment entre la Chine et l'Europe. Voilà, la météo... C'est mis à l'unisson. Le CAC ce soir, en tout cas, en hausse, en mode, oui, ascension cette semaine. Les marchés, le CAC a gagné 0,9% supplémentaire. Julien, il faut qu'on parle de Bouygues. La publication de Bouygues, alors elle a été sanctionnée, cette publication. Dans l'immobilier, c'est pas terrible pour Bouygues. Le titre ce soir perd plus d'1,5%. Est-ce que c'est un point d'entrée ?
C'est un dossier value, donc on a une bonne génération de free cash flow, on a un très bon dividende, donc j'ai envie de dire que tout va bien pour la société, hein, malgré tout. Mais il n'y a pas de momentum, et on voit le marché, hein, ce qu'il veut, c'est acheter des sociétés sur lesquelles il y a du momentum. Donc l'immobilier est compliqué, les télécoms aussi, hein, la partie mobile, on voit que c'est un peu plus difficile sur l'ARPU notamment. Même si sur le fixe, ils ont un peu de potentiel, mm-hmm. sur la partie mobile, c'est plus complexe. Donc voilà, rien de très excitant, je dirais, sur ce dossier en termes de dynamique. Ce qu'il y a de sûr, c'est qu'on a un bon rendement, on a une boîte qui est bien gérée, donc il n'y a pas de sujet à en avoir en fond de portefeuille.
C'est ça, l'un de nos intervenants nous disait tout à l'heure, il faut toujours acheter Bouygues quand le titre recule. Vous partageriez cet avis sur Bouygues? Il faut toujours acheter les
poids.
On peut
le dire sur plein d'actions, j'ai envie de dire. Ouais. Le marché action...
Oui, maintenant vous le dites, c'est pas faux. Oui.
Le marché action est aussi sur le long terme, donc globalement, quand ça baisse, on a plutôt intérêt à acheter, ouais. Ça c'est clair. Voilà, maintenant, est-ce que c'est la meilleure valeur à avoir en portefeuille? Peut-être pas.
Jean-Louis Cussac est avec nous depuis Perceval Finance. Jean-Louis, sur Bouygues, après sa publication ce soir, -1,5%, est-ce que c'est un point d'entrée à vos yeux pour la suite?
Un point d'entrée immédiat, non. Par contre, si jamais... en fait, le point d'entrée, il a duré quelques minutes. Hein. C'est toujours pareil. C'est d'une violence terrible. Ce rebond, si vous voulez, est un rebond positif. Bouygues, c'est une valeur vraiment solide. Hein. Je ne vais pas vous faire le coup de la valeur béton, mais c'est vraiment une valeur vraiment intéressante, je pense, à posséder, à acheter sur des replis. L'idéal, ça serait vers 32,5, parce que là, il y aurait du potentiel de reprise, mais n'empêche que dans ces conditions actuelles, même là, en partant d'aujourd'hui, elle pourrait aller à 39 €, qui serait un objectif graphique classique dans la configuration actuelle. Donc, c'est sûr que c'est pas maintenant tout de suite. Tout à l'heure, 33,5, c'était pas mal au plus bas. Ça représentait un petit pullback sur une zone d'achat, sur repli. Voilà, oui, c'est une valeur, faut la surveiller. Vous savez, quand ça va mal, faut avoir une liste de valeurs préparé à l'avance. D'accord. Et on les achète à ce moment-là, c'est ce que font les gérants, etc. Ils regardent les fondamentaux, ils regardent les analystes, ce qu'ils en disent, et après c'est eux qui décident du prix du moment en regardant le prix et l'ambiance générale.
Merci Jean-Louis. Jean-Louis Cussac qui nous appelait depuis Perceval Finance, voilà, pour réagir sur ce potentiel de Bouygues après la publication. Le titre est ce soir sanctionné. Une autre valeur sanctionnée, c'est à Wall Street, Walt Disney. Le titre Disney perd 10%, alors que Wall Street progresse, hein. Moins 10% Disney, les perspectives dans le streaming déçoivent les investisseurs. On en parlait avec John Plassard dans USA Today. Si vous avez raté le direct, le replay est disponible sur notre application BFM Business. Vous allez dans BFM Bourse et dans les replays, c'est très très facile à trouver, mais c'est vraiment la grosse déception du jour. Disney, moins 10% aux États-Unis. Ubisoft, vous vouliez en parler d'Ubisoft. Stifel qui relève son conseil, Julien, sur Ubisoft. Plus de 3% de hausse ce soir, c'est une belle progression.
Il n'y a pas que d'ailleurs, hein. Deutsche Bank aussi pousse le titre à l'achat. Bon, c'est un call vraiment momentum. Hein. Ubisoft, valeur mal aimée par le marché, avec une forte décote par rapport à ses concurrents dans le secteur du jeu. Et puis là, on espère un peu de momentum avec deux grosses sorties à venir, hein, du côté de Star Wars et puis du côté d'Assassin's Creed. Et donc, beaucoup d'attentes là-dessus sur deux jeux AAA qui pourraient en tout cas redonner un peu de momentum sur le titre. Donc c'est vrai qu'à ce niveau de valorisation, ça peut être tentant. Ça reste quand même du trading plus que du fonds de portefeuille parce que on voit bien le groupe a quand même beaucoup de mal sur les jeux gratuits, etc.
Très sous-coté par rapport à ses concurrents d'ailleurs, Ubisoft sur le marché. Le titre ce soir cote donc termine à 22,45 €. Et puis dans l'univers de jeux vidéo, Nintendo a annoncé qu'il dévoilerait le successeur de sa vieillissante console Switch. Ils dévoileront le profil de cette future console qui succédera à la Switch d'ici un an, d'ici mars 2025. Voilà ce qu'a annoncé tout à l'heure Nintendo. Vous ne pouvez pas se quitter, Julien, sans évoquer le Borussia Dortmund ce soir. Match retour de la Ligue des Champions face au PSG. Alors depuis le match aller où le Borussia Dortmund a gagné, le titre a gagné 5%. Et ce soir, il y a un peu de doute. Le titre a reculé en clôture de 0,2%. C'est un bon signe pour le PSG?
Écoutez, il faut l'espérer. Il y a une victoire française.
Ouais. La bourse n'est pas très bonne dans les pronostics footballistiques, en l'occurrence. Il ne faut pas forcément se fier à cette petite baisse de 0,2%. Mais vous aurez, mesdames, messieurs, au moins entendu ici dans BFM Bourse ce soir que le Borussia Dortmund a perdu. Perdu du terrain en bourse. On verra ce qu'il en est sur le terrain de foot ce soir. Merci beaucoup Julien de nous avoir accompagnés.
Merci.
Julien Kistrebert pour Taylor AM. Le CAC 40 en clôture donc, une nouvelle progression. Plus 0,9%, quasiment 1% de hausse ce soir, 8075 points. Dans un instant, c'est Guillaume Paul qui vous accompagne. Good evening business jusqu'à 20h. Bonne soirée.
BFM Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business.